Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes. Bienvenue sur Studio Zef où aujourd'hui je reçois Rachel, prothésiste, styliste ongulaire. Bonjour Rachel.
Bonjour Sophie.
Je te reçois ici pour parler du fait d'être une femme qui a décidé d'entreprendre à son compte. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier ?
Je fais ce métier depuis 2011.
2011 ?
Oui.
Comment ça t'est venu cette envie ?
Eh bien après un congé parental en fait. J'avais mes deux petites filles et j'avais envie de changer de métier pour pouvoir profiter un peu plus de mes filles. Et je me suis dit, pourquoi pas faire de la prothésie ongulaire.
Prothésie ongulaire, c'est quand même pas banal. Qu'est-ce qui fait dans ton parcours qu'à un moment donné, tu t'es dit, il y a des choses à faire à ce niveau-là? Tu étais déjà créative avant par rapport à tout ce qui est art? Tu avais une passion pour tout ce qui était bien-être et beauté? Enfin, comment ça t'est venu?
Alors, de l'art, oui. Mais tout ce qui était beauté, non. Parce qu'en toute honnêteté, je suis partie en formation sur Paris. Je n'avais jamais fait mes ongles.
Vraiment ?
Oui.
D'accord. Donc c'était à la fois une découverte et une envie de faire un métier précis.
C'est ça, une envie de faire un métier qui était en plein essor, qui commençait tout juste à arriver, en me disant ça peut allier et en fait cette communication dont j'ai besoin avec l'autre et en même temps le côté un petit peu artistique.
Alors ce côté artistique, d'où tu le tiens ?
Je pense un peu de mon père. Après, c'est depuis que je suis toute petite, hein, ça a toujours été.
T'as toujours dessiné ?
J'ai toujours dessiné.
Quel a été ton parcours avant d'être maman ? Parce que bon, on voit bien que devenir maman a été un tournant.
Oui.
Mais avant ?
Avant, j'ai eu un parcours scolaire assez classique. Je suis passée par la filière commerciale. En fait, à la fin de ma troisième, lorsqu'il a fallu choisir, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'avais dans l'idée de faire quelque chose lié à l'art, mais je n'avais pas les notes suffisamment hautes pour faire ce parcours. Donc du coup, je me suis dirigée vers le commerce.
Donc dans un premier temps, tu as travaillé dans le commerce en tant que salariée.
Oui.
Qu'est-ce que tu faisais ?
Je vendais des vêtements.
Et tu as fait ça combien de temps ?
J'ai fait ça de 16 ans, on va dire, parce que j'étais déjà stagiaire. En fait, entre les études, on faisait beaucoup de stages, jusqu'à ce que je décide de changer de métier quand j'ai eu mon congé parental. Donc je dirais vers 27 ans, de 16 ans à 27 ans.
Ces études-là, c'était quoi ? Tu travaillais en alternance ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Non, c'était un cursus classique, pas d'alternance, mais beaucoup de stages. C'était un bac professionnel.
Donc un bac professionnel dans la vente.
Oui.
Tu te retrouves à travailler toujours au même endroit ou tu as changé plusieurs fois d'employeur ?
Non, je suis toujours restée au même endroit en fait. J'avais plusieurs boutiques et du coup j'ai bifurqué dans toutes les boutiques que détenaient mes patrons en fait.
Sur Blois ?
Sur Blois.
Donc tu es blésoise ?
Je suis d'Huisonnaise à la base.
Huisonnaise. Tu étais du coin ?
Oui, je suis du coin.
Tu as grandi en Loir-et-Cher.
Oui.
Et tu as fait toute ta vie en fait en Loir-et-Cher.
C'est ça.
Donc tu pars à Paris, c'est ça pour ta formation ?
Oui, je pars à Paris.
Qu'est-ce qui te marque le premier pendant cette formation ?
En fait, c'est entre la peur d'avoir fait un choix qui n'est pas forcément faisable. Quand on part dans l'inconnu, qu'on ne sait pas ce qui nous attend, on a toujours peur, on a toujours cette appréhension au final. Et aussi l'excitation de se dire, je vais changer ma vie peut-être.
Changer ta vie ?
Oui.
Et dans les faits, ça a changé ta vie ?
Ah bah ça a complètement changé ma vie, oui.
Cette formation, elle dure combien de temps ?
Elle a duré 5 semaines.
Là, tu apprends vraiment le métier de prothésiste.
Oui.
Et derrière, comment tu t'installes ? Quelle expérience tu as ? Qu'est-ce qui te permet d'ouvrir ton magasin ?
J'ai vraiment ouvert 2 ans après. D'accord. C'est-à-dire que j'ai pris des petits cobayes par-ci, par-là pour m'entraîner parce que je ne me sentais pas prête. Et que, en fait, on a été plusieurs à avoir la même idée en même temps, c'est-à-dire d'ouvrir une onglerie. Et quand je suis revenue de formation, comme on était un petit peu trop à avoir eu cette idée, je me suis dit, ce n'est pas maintenant qu'il faut que je me lance. Je vais attendre, je vais essayer de me démarquer. Et la seule chose que j'ai trouvée pour me démarquer, c'était le nail art.
Le nail art, alors explique-nous.
Alors le nail art, c'est de la peinture sur les ongles, quelque chose de plus artistique, de plus travaillé. Au-delà de la prothésie ongulaire où on allonge un ongle, où on crée une forme, où on arrive à recréer un ongle qui n'existe pas, par exemple, qui a été rongé ou qui a été abîmé, on peut aussi lui donner de la couleur, donner une texture particulière aussi, faire des décos en 3D, peindre tout un tas de petits motifs, en fait, à la main.
Comment tu as développé cette compétence ?
En m'entraînant, dans mon coin.
Sur les ongles qui voulaient bien
Sur les ongles qui voulaient bien, et puis aussi sur des mains artificielles. Parce que ça existe, pour s'entraîner, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait. Comme ça, on n'embête pas tout le monde non plus, parce qu'on passe des heures et des heures.
Une formation artistique préalable ?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Pas de beaux-arts, pas d'école.
Pas de beaux-arts, j'aurais aimé.
Oui.
Mais non, pas de beaux-arts.
D'accord. Donc vraiment, c'est toute seule, tu te lances dans ce projet. Quand tu annonces à ta famille, voilà, je vais me mettre à mon compte et je vais partir sur ce projet-là en particulier, comment ça réagit ?
Concernant mon mari et mes enfants qui étaient plutôt petites à l'époque, aucun souci, hein, j'étais poussée à fond, hein, voilà. C'était génial, c'était nouveau et j'étais très encouragée. Ma maman aussi, père un peu moins parce qu'il avait peur. C'est vrai que de se lancer à son compte, c'est pas toujours facile, ça marche pas toujours. On peut y perdre beaucoup aussi. Donc bon, ça... Mais bon, maintenant c'est passé.
Maintenant c'est passé. Le soutien familial est là.
Oui, tout à fait.
Dans les amis qui sont autour de toi, quelle réaction y a-t-il ?
Un peu de tout. Du positif comme du négatif. C'était « tu vas jamais y arriver » ou « c'est un truc qui va marcher quelques temps, mais ça ne durera pas » ou « ah mais c'est génial, c'est super, je suis très contente pour toi, je suis sûre que tu vas réussir ». Les deux, au final.
Au bout de 2 ans, tu décides de t'installer. Quelles compétences ont été nécessaires pour pouvoir t'installer ? Autre que savoir faire tout ce travail sur les ongles.
Il y a un côté aussi... Communication, il faut savoir communiquer. On est quand même dans une pièce pendant parfois 2-3 heures avec une personne. Il faut savoir communiquer, avoir une conversation, rendre les choses plus sympathiques, un blanc, un silence royal.
Est-ce qu'il y a un investissement de base à faire pour ce genre d'activité ?
Il y a l'investissement de la formation et il y a l'investissement du matériel. Et c'est vrai que c'est un coût, mais ça en vaut le coup.
Est-ce que tu t'es fait accompagner par la CCI ou autre pour toutes les démarches administratives ?
Pas du tout, parce qu'à l'époque, c'était en 2011, hein, je le rappelle, et c'était pas un métier reconnu. Donc il n'y avait aucun financement, il n'y avait aucune aide pour faire ce métier.
Donc tu fais tes propres investissements ?
C'est ça.
Mais sans derrière des personnes pour te conseiller d'un point de vue administratif, du point de vue financier.
Après, il y a la formation auto-entrepreneur qui est obligatoire.
Oui.
Donc ça, automatiquement, ça nous aide aussi pour le côté administratif.
D'accord. Ça, tu l'as fait au...
Oui.
Où ?
Au CCI.
D'accord.
Oui, ça.
Oui. Il y a des chances.
Je pense. Ça fait longtemps en même temps. Hein,
oui, c'est ça. Ouais. Petite formation d'auto-entrepreneur, enfin, ça t'a pris combien de temps ?
Alors la formation d'auto-entrepreneur, elle était sur 3 jours à l'époque.
Ah oui, c'était vraiment très 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 succinct.
Ah oui, c'est succinct. Mais c'est suffisant parce que auto-entrepreneur, c'est pas non plus quelque chose de très compliqué à gérer. Il n'y a pas de notion comptable, etc. Donc voilà, à part suivre un livre de compte, il y a quelques petites formalités. Savoir comment remplir sa fiche URSSAF, etc. C'est pas non plus... quelque chose de très, très difficile.
Est-ce que tu as eu besoin d'avoir recours au soutien des banques ou pas ?
Non.
Tout est venu de toi. Indépendante.
J'ai eu une petite aide financière familiale pour me lancer. Parce que ce n'est pas forcément évident d'avoir de l'argent de côté comme ça. Suffisamment en tout cas pour se lancer. Et après, oui, c'était de moi-même.
Dans un premier temps, tu as trouvé un local tout de suite ou pas ?
Ah non, du tout. J'ai fait de la prothésie angulaire en déplacement au départ.
D'accord.
Je me déplaçais chez les clientes pour essayer de me faire le maximum de clientèle possible. Et j'ai trouvé un local, un salon de manucure depuis 2020.
Oui, donc ça a mis beaucoup de temps.
Oui.
Les premières clientes que tu as rencontrées, elles venaient d'où ?
C'est du bouche à oreille, hein, souvent. C'est des connaissances, de connaissances, de connaissances.
Ça a mis combien de temps pour toi pour avoir cette sensation que tu étais reconnue ?
Je pense que je me suis sentie en confiance, on va dire ça comme ça, en 2015.
En 2015, ouais. Finalement assez rapidement, au bout de 4 ans, c'est pas...
Oui, je pense que voilà. Mais je me suis toujours dit, plus ça va aller, plus ce sera facile.
Et c'est vrai ?
Et c'est vrai.
À l'heure actuelle, tant que tu as un local ?
Oui.
Donc ça a pris quand même une proportion beaucoup plus énorme. Comment tu arrives à avoir un équilibre familial ? Parce qu'on sent bien qu'au départ de ton aventure, c'est l'équilibre familial qui a,
oui, qui a pesé dans la balance. J'ai la chance d'avoir des filles qui sont super, qui sont compréhensibles. Après, ça prend beaucoup de temps. Il faut dire ce qu'il en est. Quand on prend un local, on ne compte pas ses heures au final. Hein. Mais on essaie d'avoir un équilibre. Et puis maintenant, mes filles sont grandes aussi. Donc elles ont un petit peu moins besoin de moi, même si c'est...
Mais on sait bien qu'au moment où on pense qu'elles vont les enfants vont avoir besoin de moins de temps, c'est le moment où finalement elles ont besoin de temps beaucoup plus, mais différemment.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est différent. C'est différent.
Ça, tu fais peut-être un peu moins le taxi entre ta activité des enfants, mais par contre, il y a d'autres disponibilités.
Évidemment. Mais en tout cas, les temps consacrés en dehors du côté professionnel sont des temps forts.
J'imagine bien. Donc, tu as ton local à l'heure actuelle. Avoir un local, ça veut dire avoir beaucoup de charges.
Oui.
Est-ce que tu as ressenti vraiment une pression de ce côté-là depuis que tu ne vas plus chez les gens?
Oui, assez. Quand on se déplace, on a aussi le temps. On a beaucoup moins de temps pour travailler. Il y a le coût de l'essence. Et donc, ça peut aussi se valoir par rapport à un loyer, par exemple.
Donc finalement, tu as trouvé un bon équilibre en ayant un local?
C'est un équilibre.
Ce local, ça a été facile de le trouver?
Oui, quelque part. Je passais devant pendant des années. Et puis un jour, il y a écrit à louer. Et là, j'ai été voir. Et puis, ça a été le coup de foudre. Et puis, voilà.
Oui, ça a vraiment été le petit clin d'œil du dessin.
Exactement.
Tu as aménagé à ton goût, j'imagine?
Oui.
Et est-ce que là encore, soutien familial, la participation des uns et des autres est revenu?
Tout à fait, oui. Familial et amical. Tout le monde était là.
Une particularité de ton local par rapport à un autre endroit où on peut aller faire ses ongles?
On s'y sent bien.
C'est vrai.
C'est tout ce que je peux te dire. Vraiment, on s'y sent bien.
Toi, tu t'y sens très bien.
Ah oui, je m'y sens très, très bien, oui.
Tu as donc réussi à trouver un équilibre sur le lieu du travail.
Oui.
On sait à quel point, à l'heure actuelle, la conjoncture est compliquée.
Oui.
Tu l'as ressenti ces derniers temps?
Oui, bien sûr.
Ouais.
Bien sûr. Parce que ce n'est pas évident de mettre, par exemple, un choix de tarif convenable pour que tout le monde puisse avoir accès à ce genre de prestations, tout en gardant à l'idée qu'il faut manger aussi quelque part.
C'est ça. Oui, parce que tout à l'heure, tu nous as dit quand même que tu peux te retrouver avec des gens pendant 3 heures.
Ça arrive quand il y a des grosses décos, mais après, les prix des prestations sont en conséquence aussi.
Bien sûr, j'imagine. Parce que bon, il faut qu'ils puissent manger, donc que ce soit rentabilisé.
Évidemment, oui.
Dans ta vie, il y a des choses qui viennent apporter un équilibre en plus de la famille, qui te permettent de tenir la longueur dans le fait d'être auto-entrepreneur?
Oui, il y en a qui sont sportifs. Moi, je peins. Voilà.
Toi, tu peins?
Moi, je peins.
Tu peins beaucoup?
Je peins beaucoup.
Comment tu arrives à mettre des heures de peinture dans ton activité?
Je rajoute des heures.
Tu rajoutes des heures aux heures?
Voilà, c'est ça. La journée a fait 24, chez moi, elle fait 30.
Ah oui, quand même. Oui, parce qu'il faut quand même penser qu'en tant qu'entrepreneur, tu as aussi tout l'administratif derrière.
Oui, oui.
Tout ce qui est aussi commande de produits.
Oui.
Est-ce que toi, tu vas faire des salons, des choses comme ça?
Ça m'arrive, oui. Les salons d'esthétique sur Paris, par exemple, oui.
Tu y vas pour te présenter ou pour en profiter pour aller chercher des idées?
Pour aller chercher plus des idées. Voir les nouvelles tendances, c'est important aussi pour pouvoir proposer des choses nouvelles à la clientèle.
Mm-hmm.
Ma clientèle, en fait, je l'ai depuis des années. Donc j'ai besoin aussi de renouveler pour pas qu'elle se lasse. Donc j'ai besoin de voir tout ce qui est nouveau dans le métier, en fait. Les nouvelles couleurs, les nouvelles tendances, les nouvelles décos, c'est important.
À l'heure actuelle, tu travailles avec une clientèle fidèle?
Oui, tout à fait.
Il y a du temps pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de se faire
embellir,
je dirais?
Non. Plus maintenant.
Plus maintenant. Quelqu'un qui aime avoir de beaux ongles, c'est quel rythme pour venir chez toi? C'est une fois toutes les semaines?
Ça dépend de la prestation, ça dépend de la repousse des ongles de la cliente, ça dépend de pas mal de choses. En moyenne, entre 3, 4, 5 semaines, ça dépend.
Donc tu as des clientes qui non seulement sont fidèles, mais en fait viennent te voir souvent?
C'est ça, tout à fait.
Quelle est, à l'heure actuelle, tu parlais de tendance, quelle est pour toi la plus grosse évolution que tu as vue au niveau tendance, au niveau de l'onglerie? C'est le moment où tu as commencé et maintenant?
Les techniques, les produits ont complètement changé depuis 2011. C'est un métier qui est en plein essor. Donc il faut aussi pour les fournisseurs se renouveler sur les techniques et le matériel. Et tout a changé. Moi j'ai commencé avec par exemple des lampes UV qui avaient des vraies ampoules UV. Maintenant ce sont des LED.
Ouais.
Ça va beaucoup plus vite pour ce qu'on appelle la catalysation. Et au niveau des produits, il y a beaucoup de techniques qui sont arrivées sur le marché. Des capsules américaines, des pop-its, c'est des choses qui n'existaient pas avant. Donc il faut sans cesse aussi se renouveler sur tout ce qui est possible de faire au niveau prestation.
Donc là, tu passes encore beaucoup de temps à faire de l'auto-formation, à tester des choses en dehors de sur tes clientes?
Bien sûr, il faut.
Tu utilises toujours ces fameuses mains?
Toujours.
Toujours?
J'ai des vieilles mains mais qui sont très usées par le temps, mais je les utilise toujours.
Les demandes des clientes ont évolué aussi avec le temps?
Sur tout ce qui est nail art, oui. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai débuté, le nail art était pas trop... C'est pas qu'il n'était pas trop tendance, mais en fait, elles avaient peur de faire quelque chose de différent. Que maintenant, en fait, elles essayent de trouver des idées sur Internet. Elles veulent toujours quelque chose d'un peu différent. Elles veulent se différencier des autres. Donc, c'est là où c'est intéressant. C'est qu'on trouve des choses à faire qui peuvent aller du tout au tout, en fait.
Donc, tu as des clientes qui arrivent avec des demandes spécifiques, pour
oui.
certaines.
Oui.
Et d'autres qui arrivent comme ça...
Sans savoir ce qu'elles veulent.
Ça marche aussi.
Ça marche très bien aussi.
Comment tu fais quand tu te retrouves face à une cliente et ce jour-là, elle arrive en disant bon, zéro inspiration aujourd'hui?
Alors, comme j'ai la chance d'avoir des clientes fidèles que je connais depuis très longtemps, je connais leur goût et je leur propose toujours quelque chose qui va dans leur sens, en fait. Tout en essayant de trouver quelque chose de différent à chaque fois.
Ça ne doit pas être simple.
C'est pas simple, mais ça se trouve. On arrive à trouver, en fait.
Vu grandir avec toi, on va dire.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une transformation dans le rapport à une certaine féminité qui s'exprime par les mains? Là, en l'occurrence, il y a un travail de la féminité dans les mains, dans ce que tu proposes. Est-ce que tu as vu certaines femmes sur qui ça a eu un véritable impact?
Complètement, oui. Complètement. En fait, c'est comme quand on sort de chez une coiffeuse, on a une nouvelle tête, bah des nouveaux ongles, en fait, ça donne confiance, on se sent plus féminine. On peut ne pas être féminine dans tout le reste, c'est-à-dire même dans sa tenue vestimentaire ou dans sa façon de se préparer, le maquillage, etc., mais avoir des ongles. Ça, j'ai beaucoup remarqué que, en fait, c'est la petite touche de féminité chez les personnes qui n'en ont pas forcément ailleurs.
Ah oui, oui, vraiment.
Ah oui.
Oui, c'est se réapproprier sa féminité.
Exactement.
Mais avec douceur. C'est-à-dire que pouvoir se regarder dans la glace en disant je suis toujours moi, mais par contre mes ongles, bah, c'est aussi moi.
C'est aussi moi.
Oui. Côté couleur, il y a eu une évolution sur 14 ans ?
Oh oui, il y a une évolution. Il y a des tendances. Tous les ans, ça change. C'est un petit peu comme le vestimentaire finalement. Il y a des couleurs phares chaque année ou chaque saison.
Alors quelle est la couleur phare cette année ?
Cette année, bah, en fait, on a des couleurs qui sont, on va dire, classiques par saison. Et puis, par exemple, là, on arrive dans le printemps, on va jouer sur tout ce qui est pastel. Ornellart, on va faire beaucoup de fleurs, des choses en rapport avec la saison. En été, c'est pareil, on va jouer sur tout ce qui est fluo. Après, il y a des tendances de fluo, il y a des tendances couleurs. Cette année, ça va être beaucoup de rose, beaucoup de fuchsia. Après, il faut respecter aussi les goûts des clientes. Il faut que ce soit en accord avec elles-mêmes aussi.
Tu vois des femmes qui s'expriment, qui expriment leur féminité de plus en plus grâce aux ongles. Est-ce qu'il y en a certaines où tu sens que ça affirme aussi leur propre goût ? C'est-à-dire qu'elles arrivent chez toi au départ en disant « je sais pas ». Et puis au bout de quelques années, tu sens qu'elles s'affermissent dans ce qu'elles souhaitent.
Oui, bien sûr.
Tu as un exemple vraiment d'un changement qui t'a marqué ces dernières années ?
Des clients qui étaient bloqués un petit peu par cette peur de faire quelque chose de différent, justement. Et petit à petit, je les ai amenés aussi, quelque part, à faire quelque chose qui leur ressemble plus. Par exemple, essayer le nail art, chose qu'elles n'auraient pas faite au départ. Et puis finalement, elles y prennent goût. Et après, elles choisissent les motifs. Donc oui, il y a un petit cheminement comme ça qui peut se faire, oui.
Si quelqu'un vient te voir pour un événement particulier.
Oui.
On peut avoir plusieurs périodes de l'année qui sont très marquées par certains faits. Les gens vivent bien de garder cette décoration qui est dédiée à un moment donné pendant plusieurs semaines ou elles ont tendance à revenir plus vite
hein. Ah non, elles le gardent. Elles le gardent. Après, si par exemple, elles ont rendez-vous le 13 février et que la Saint-Valentin est le 14, je vais avoir moins de déco de Saint-Valentin le 13. Parce qu'on sait très bien qu'après, elles vont le garder sur un mois. La Saint-Valentin sera passée, donc ça fait un petit peu périmé, entre guillemets.
Oui, donc il y a une adaptation quand même au calendrier.
Voilà, c'est ça, selon les rendez-vous. Oui.
Comment tu gères les budgets par rapport au fait que tu dois faire rentrer des produits et puis ça ressort ? Est-ce que c'est des achats que tu fais ? Ou alors est-ce qu'il y a certains produits, tu peux les retourner aux fournisseurs ? Comment ça se passe ?
J'ai jamais retourné aux fournisseurs. Mais on a énormément de fournisseurs maintenant. Avant, il en existait très peu. Maintenant, franchement, sur le marché, on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Après, je préfère aller sur des produits qualitatifs qui ne sont pas testés sur les animaux, qui sont le moins allergènes possible. Mm-hmm. Il y a tout un tas de choses à prendre en compte aussi dans le choix du produit.
Il y a une grosse progression par rapport aux produits allergènes, par exemple ?
Oui, bien sûr. Par exemple, avant, on faisait beaucoup de résine. La résine, c'était une sorte de poudre qu'on mélangeait avec du monomère qui durcissait après. C'est un produit qui est assez fort et qui sent fort aussi, qui n'était pas forcément très agréable et qui était un petit peu, je dirais, chimique. Que maintenant, on arrive à trouver quand même des gels qui sont beaucoup plus doux, qui n'abîment pas la plaque de l'ongle. Si le travail est bien fait, il n'y a aucune raison que ça l'abîme, en fait.
Comment les personnes enlèvent leurs ongles ?
Il faut qu'ils reviennent me voir.
Il faut qu'ils reviennent te voir.
Ah oui, c'est hors de question qu'elles les mangent, qu'elles les arrachent. Non, elles reviennent me voir.
Elles reviennent te voir.
Oui.
J'imagine que pour ta clientèle, qui est quand même une clientèle très fidèle, en fait, elles arrivent, tu défais et tu refais derrière.
C'est ça, ce qu'on appelle un remplissage.
D'accord. Il arrive que tu aies des clientes qui te disent, pendant quelques temps, j'ai envie de rien avoir.
Bien sûr, ça peut être aussi dû, par exemple, à des opérations ou à des grossesses où il faut faire un petit temps de pause, en fait. Mmh. Donc oui, on fait des dépôts dans ces cas-là, oui.
Au niveau professionnel, il y a certaines professions jusqu'à maintenant où on disait que, hors de question d'avoir les ongles faits, est-ce que malgré tout, certaines femmes de ces métiers où, soi-disant, il ne faut pas avoir les ongles faits, viennent finalement se faire faire les ongles maintenant ?
Oui, des métiers dans le médical, par exemple. Il y a certaines personnes qui travaillent dans le médical qui peuvent maintenant faire leurs ongles. Pas toutes, hein. Il y a des choses, c'est assez restreint. Mais sinon, il y a une multitude de métiers qui acceptent les ongles maintenant.
Est-ce que c'est dû au fait que, justement, ces ongles-là ne bougent pas, en fait ?
C'est ça.
c'est
tout ça. À fait. C'est pas du tout comme du vernis qui va s'écailler et qui risque de tomber dans quoi que ce soit dans la restauration ou dans le médical. Là, pas du tout.
Par rapport à la progression de ton métier, qu'est-ce que tu as envie de faire là dans les années qui viennent?
Moi, j'aime bien ma petite routine.
T'aimes bien ta routine?
J'aime bien ma routine. J'aime bien m'intéresser aux nouveautés. J'aime bien. Il y a un équilibre.
Tu fais beaucoup d'heures ou t'arrives à vraiment réduire tes heures pour avoir une vraie vie personnelle?
J'arrive à réduire un peu. Parce que justement, il y a la peinture qui a pris un peu plus de place dans ma vie. Et puis, que j'ai aussi envie de passer du temps en famille. J'arrive à réduire légèrement. Mais c'est compliqué aussi d'avoir un équilibre financier, finalement, et aussi familial et autre.
Un équilibre financier qui peut être très mis à mal avec toutes les annonces gouvernementales actuelles.
Exactement.
Comment tu le vis?
Bon, pas très bien. On se pose beaucoup de questions. Mmh. On se demande à quelle sauce on va être mangé, quoi.
Est-ce que ça peut remettre en question complètement le fait que tu fermes boutique un jour parce que...
Si c'est pas viable, évidemment, je vais pas faire quelque chose qui puisse nuire à ma vie familiale, par exemple, ou se mettre à mal financièrement. Ça sert à rien.
Donc une période un peu délicate, on va dire.
Tant qu'on ne sait pas où on met les pieds, on va dire que c'est délicat. On verra plus tard ce qui va être engagé.
Donc pas de regret d'avoir ta boutique en tout cas?
Ah non, pas du tout.
Pas du tout. Du temps pour faire ton activité de cœur, donc la peinture?
Oui.
Tu exposes?
Oui.
Et il y a un projet là en cours?
Ouf, il y a plusieurs projets.
Ah bon?
Il y a plusieurs projets. Il y a des expos, j'ai pas mal d'expos. Et puis des projets sympas du type Festival Dionys Art au mois de juin. Que j'avais déjà fait l'année dernière, qui était super, avec une très bonne ambiance, une très belle organisation. Et puis là, plus récemment, on m'a proposé de faire un transformateur Enedis en peinture, avec un super projet aussi, au mois de mai.
Au mois de mai, qu'à aller voir quand ça sera fini.
Exactement.
Sur un transformateur, c'est combien d'heures de travail?
J'en ai aucune idée.
Aucune idée.
C'est mon premier.
D'accord.
Donc je verrai.
La plus grande toile que tu as fait jusqu'à maintenant?
Elle fait 2 mètres sur 2 mètres, parce que justement, c'est la toile que j'ai peint à l'occasion du festival Dionys Art.
Et tu sais combien de temps tu as passé dessus?
Eh bien, on avait du samedi après-midi au dimanche milieu d'après-midi pour le faire.
D'accord, donc ça n'était pas en public?
Tout à fait.
Quel effet ça fait?
Ben, je pensais que ça aurait été plus difficile, parce que le regard des autres est compliqué, mais pas du tout en fait. J'étais comme quand je peins dans ma salle, en fait, c'est comme si j'étais dans ma bulle et voilà.
Super.
Ouais.
On peut te retrouver sur les réseaux?
Tout à fait.
Alors comment on te retrouve sur les réseaux, dis-moi?
Pour tout ce qui est peinture, c'est sur Facebook Rachel XXXR, pareil sur Instagram et sur TikTok aussi.
Et pour l'onglerie?
L'onglerie, c'est Sublime Ongles. Pareil sur Instagram et sur Facebook.
Et Sublime, ça, et Ongles, ça s'écrit?
Sublime, ça s'écrit S-U-B, apostrophe, lime, plus loin, ongles.
Oui, il faut quand même le dire, parce que des Sublime Ongles, je pense qu'il ne doit pas y en avoir qu'un.
Il y en a pas mal.
Je te remercie d'être venu témoigner.
Merci à toi.
Et puis, au plaisir d'aller te suivre sur les réseaux.
Merci beaucoup, Sophie.
Je t'en prie. Au revoir.
Au revoir.
Vanessa, Sophie, Clara, Christelle, Isabelle, Stéphanie... et tant d'autres femmes. Elles ont décidé de créer leur activité professionnelle. Fini le salariat, le cœur avant la raison. Il était temps pour elles d'exploiter leurs talents, de se mettre à l'ouvrage, de tracer leur propre voie. Un pari fou et risqué pour beaucoup. L'occasion pour elles d'exprimer leur potentiel et de respecter leur rythme. Autrement, l'émission qui recueille les témoignages de ces femmes hors normes.